Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. L'Italie se reconfine pour les fêtes dans l'espoir d'éviter un nouveau rebond des contaminations au Covid-19. Nous reviendrons sur les différentes mesures de restriction. L'Agence américaine des médicaments a donné son feu vert à un deuxième vaccin contre ce coronavirus. Après Pfizer, voici donc Moderna. Et après ce journal, nous reparlerons de la pandémie avec votre invité Chloé.
Oui, Yazdan Pana, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, membre du conseil scientifique. Il dirigera en janvier une nouvelle agence de recherche sur les maladies infectieuses et émergentes.
Nous irons en Corée du Sud à la rencontre d'un transfuge nord-coréen. Il s'inquiète d'une loi qui vient d'être votée. Explication de notre correspondant.
Nous reviendrons également sur le suicide d'une lycéenne transgenre à Lille. Il pose notamment la question de la reconnaissance des enfants trans à l'école.
Les prochaines attributions de fréquences pour la 5G ne devraient pas se faire sans évaluation préalable de son impact sur l'environnement. Recommandation faite par le Haut Conseil pour le climat dans un rapport qu'on vous détaille. La nouvelle est tombée tard hier soir à une semaine de Noël. Le Premier ministre italien a annoncé un confinement dans le pays pendant les fêtes de fin d'année, dès lundi et jusqu'au 6 janvier. L'Italie, un des pays les plus touchés d'Europe par la pandémie de Covid-19, a donc pris une décision radicale à l'approche des vacances, Claude Guibal.
Il aura fallu des jours de discussion entre tenants d'un confinement strict et ceux partisans de mesures plus souples pour protéger les entreprises et les réunions familiales. Et Giuseppe Conte a fini par trancher. Les Italiens resteront donc strictement confinés chez eux. Du 21 décembre au 6 janvier, une sortie par jour et par foyer, interdiction de se déplacer dans le pays. Bars et restaurants seront fermés sur toute cette période, ainsi que les commerces non essentiels du 24 au 27 décembre, du 31 décembre au 3 janvier. Et du 5 au 6. Resteront accessibles les commerces alimentaires, les pharmacies, les coiffeurs, les bureaux de tabac, les blanchisseries et les libraires. Giuseppe Conte parle de décisions difficiles, de cette zone rouge avec ses vacances, ses fêtes au moment où l'épidémie reprend, dans ce pays qui compte une des populations les plus âgées d'Europe et où le traumatisme du printemps dernier ne s'est jamais effacé.
Quant à l'Autriche, un troisième confinement sera instauré dès le lendemain de Noël pour environ un mois. Magasins et écoles vont fermer. En France, un couvre-feu est en vigueur de 20h à 6h. Il sera exceptionnellement levé pour le réveillon du 24 décembre. Bonjour Yazdan Pana.
Bonjour.
Vous êtes donc chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat. À l'heure où les vacances commencent, les familles vont se rassembler. Quelles précautions recommandez-vous de prendre pendant les fêtes ?
Non, je pense que vous voyez tout ce qui se passe en Europe. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant. C'est toujours des règles qu'on connaît depuis un moment, sans vouloir faire d'infantilisme, quoi, en fait. Mais il faut vraiment essayer de respecter déjà les personnes âgées, nos anciens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les voir, mais en tout cas respecter les distances, porter le masque, se laver les mains par du gel hydroalcoolique. Donc il faut vraiment essayer de faire attention. Il y a un certain nombre de mesures. Par exemple, si on va aller voir nos anciens, ou on va aller en vacances pendant une semaine, faire attention juste avant de ne pas voir trop de gens. Éventuellement, si on a vu trop de gens, faire un test avant d'aller les voir. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire un test, mais ceux qui ont beaucoup de contacts peuvent faire un test. Donc il y a un certain nombre d'interventions qu'on peut mettre en place pour essayer de diminuer le risque.
Merci Yazdan Pana. On vous retrouve dans moins d'un quart d'heure. Après ce journal, vous serez l'invité de Chloé Cambrelin. Pour freiner la propagation du coronavirus, les campagnes de vaccination se multiplient. Aux États-Unis, deux vaccins sont désormais autorisés. Après celui de Pfizer-BioNTech, c'est le produit développé par Moderna qui a obtenu hier soir le feu vert de l'Agence américaine des médicaments. Sébastien Paour.
Comme pour celui de Pfizer la semaine dernière, il n'a fallu que 24 heures à l'Agence de l'alimentation et du médicament pour confirmer l'avis du comité d'experts. Feu vert jeudi soir par 20 voix et une abstention. L'agence a donné son autorisation d'urgence hier soir et les Américains vont donc disposer très vite de deux vaccins contre le coronavirus. Deux vaccins qui ont deux différences principales. Celui du laboratoire Moderna ne peut être administré qu'aux plus de 18 ans, alors que celui de Pfizer peut l'être à partir de 16 ans. Et surtout celui de Moderna Moderna est plus facile à distribuer et à stocker, puisqu'il se conserve dans un congélateur classique à moins 20 degrés, alors que celui de Pfizer doit rester à des températures inférieures à moins 70. C'est la première fois que l'entreprise née il y a 10 ans et basée à Cambridge, dans le Massachusetts, obtient une autorisation de commercialisation pour l'un de ses vaccins aux États-Unis. Le gouvernement américain en a déjà commandé 200 millions de doses. Les premières devraient être acheminées dès ce week-end un peu partout dans le pays pour un début des vaccinations dès lundi.
Les vaccins de Pfizer et Moderna sont tous les deux des vaccins à ARN messager, une technique développée par une scientifique hongroise qui a travaillé dessus pendant de longues années. Katalin Karikó est biochimiste et il se murmure qu'elle pourrait être récompensée par un prix Nobel. Son portrait par Louise Baudet.
Franc sourire, accent prononcé, Katalin Karikó répond aux médias du monde entier depuis sa modeste maison de la banlieue de Philadelphie. Née il y a 65 ans dans une petite ville de Hongrie, famille pauvre, père boucher, l'enfant découvre la science dans l'examen attentif des carcasses de porcs ensanglantés. En 1985, elle s'exile avec son mari et sa fille de 2 ans. Les maigres économies sont cachées dans l'ours en peluche pour passer le rideau de fer, direction les États-Unis, où la biochimiste intègre la prestigieuse université de Pennsylvanie. Mais ses recherches sont méprisées, elle est rapidement placardisée.
J'étais sur le point d'être promue et ils m'ont rétrogradée. Ils s'attendaient à ce que je claque la porte. Mais à bien y réfléchir, on doit se demander ce qu'on peut apporter. C'est la seule façon de ne pas gâcher sa vie.
La communauté scientifique ne jure alors que par les recherches sur l'ADN, mais elle s'accroche à son sujet, l'ARN messager, qui apporte aux cellules un mode d'emploi sous forme de code génétique pour combattre les maladies. Personne n'y croit, sauf sa mère.
À chaque annonce de prix Nobel, elle s'attendait à ce que mon nom soit prononcé et je me moquais d'elle en lui disant « Mais maman, je n'ai même pas obtenu une bourse !»
En 2005, Katalin Karikó établit une méthode pour prévenir la réponse inflammatoire à l'ARN messager, découverte capitale qui ouvre la voie aux vaccins type Moderna et Pfizer-BioNTech. Ce dernier laboratoire a d'ailleurs embauché Katalin Karikó. Son fondateur et propriétaire Uğur Şahin est lui aussi un immigré originaire de Turquie.
Louise Baudet. Des groupes armés ont lancé une offensive en Centrafrique. Les Nations Unies ont réagi en déployant des casques bleus. L'ONU dénonce une tentative délibérée de perturber les élections présidentielles et législatives de la semaine prochaine. Une loi suscite beaucoup d'inquiétudes en Corée du Sud. Elle prévoit de pénaliser l'envoi de tracts anti-Pyongyang en Corée du Nord, mais pas seulement. Des transfuges nord-coréens sont très critiques. À Séoul, le reportage de Nicolas Roca.
Pour Changwon-il, cette loi est une attaque directe à toutes ses activités. Il lui sera désormais interdit d'envoyer des tracts, des clés USB et même de l'argent en Corée du Nord. Ce transfuge qui est passé au Sud en 2003 dirige désormais l'association No Chain for North Korea. Il rejette la justification du gouvernement qui estime que cette loi a pour objectif unique de garantir la sécurité de tous ceux qui résident près de la frontière.
Le gouvernement se concentre uniquement sur l'amélioration des relations intercoréennes. Mais dans notre constitution, il est inscrit que les Nord-Coréens font partie de notre peuple et nous avons le droit de continuer à les informer.
L'inquiétude principale de Changwon-il, c'est l'influence de cette loi sur la population nord-coréenne, particulièrement pour les familles des plus de 33 000 transfuges désormais passés au Sud.
Parfois, l'argent envoyé par la famille au Sud est le seul moyen de survie. Les médias ne parlent que de la famille Kim là-bas. Les informations qui viennent de Corée du Sud sont porteuses d'espoir. Je ferai tout pour que cette loi ne rentre pas en vigueur. J'irai en prison s'il le faut.
C'est en tout cas ce que la loi prévoit. Si elle est définitivement adoptée, les activistes risqueraient jusqu'à 22 000 euros d'amende et 3 années de prison. De nombreuses voix, notamment au sein des Nations Unies, se sont opposées au texte, une motivation supplémentaire pour les associations de transfuges qui envisagent de porter l'affaire devant la Cour constitutionnelle.
France Culture 8h09, Margot Delpierre, le suicide d'une lycéenne transgenre à Lille interroge sur la formation des personnels au sujet LGBT dans les établissements scolaires.
Assigné garçon à la naissance, l'élève s'est tuée mercredi, elle avait 17 ans. 2 semaines avant, elle aurait été renvoyée chez elle car elle portait une jupe au lycée. Hier, le rectorat a réagi et assuré que la lycéenne était accompagnée dans sa démarche de changement d'identité sexuelle tout en la désignant au masculin dans ce communiqué. Si plusieurs de ses camarades n'accusent pas la direction, il parle de maladresse. La lycéenne vivait dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance et semblait rencontrer d'autres difficultés. Ce drame pose en tout cas la question de la reconnaissance des enfants trans à l'école. Le ministère de l'Éducation nationale affirme avoir progressé, Laurine Benjebria.
Le ministère met en avant le plan d'action national de formation des personnels éducatifs et médico-sociaux, l'existence dans chaque académie des référents égalité et discrimination et la mise en place de campagnes de sensibilisation aux luttes contre les discriminations, les LGBT-phobies. La dernière lancée l'an dernier avec notamment des affiches et des vidéos en ligne. Mais dans les faits, il n'existe pas de directive nationale quant à l'accueil et l'accompagnement des élèves trans. Le collège ou le lycée peut accompagner le changement de genre d'un ou d'une élève en décidant d'utiliser en interne son prénom d'usage, même s'il n'y a pas eu de changement d'état civil, par exemple lors de l'inscription à la cantine ou de l'appel en classe. En revanche, pour tout ce qui est documents officiels, comme les diplômes, il faut là attendre le changement d'état civil. Cela ne suffit plus, disent les associations LGBT. Le mouvement d'affirmation des jeunes gays, lesbiennes, bi et trans, destiné aux jeunes de 15 à 26 ans, réclame ainsi un protocole national unique et une sorte de dictionnaire pour bien nommer les sexualités, les identités, pour ne pas mégenrer, ne pas utiliser le pronom « il » dans le cas de Fouad, par exemple. Les associations lancent aussi un nouvel appel auprès des établissements scolaires. Elles se tiennent à leur disposition pour des formations, des interventions auprès des jeunes ou pour toute question sur les transidentités.
Mais ce n'est pas suffisant, il faut faire plus, estime également Karine Espinera, sociologue, cofondatrice de l'Observatoire des transidentités.
Quand il n'y a pas de décret, quand il n'y a pas de loi, finalement, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. D'un côté, oui, il y a un tabou. Mais sur le niveau local, je pense à Marseille notamment, où j'ai pu voir la chose se faire, une concertation entre le CPE, les enseignants, les enseignantes, les parents, ont permis des mises en place de dispositifs pour permettre justement de rendre l'école vivable à l'enfant, y compris au personnel de l'éducation nationale. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau local, ces choses-là existent. Donc, pourquoi pas finalement les formaliser pour que, entre guillemets, ça soit appliqué. Moi, je pense qu'il faut quand même un texte. On l'a pu le voir sur la question du changement d'état civil. S'il n'y a pas de texte, en France, il y avait des disparités au niveau des tribunaux. On risque de vivre la même chose avec l'école. On va assister à des disparités selon les régions. Qui dit disparité dit, entre guillemets, inégalité. Donc il faut déjà, dès le départ, il faut quand même une règle, ne serait-ce qu'elle soit minimale, c'est-à-dire protéger les personnes trans, les jeunes personnes trans. Mais ensuite, ça ne change rien au fait que c'est la concertation finalement qui va permettre à tout le monde de vivre cette situation du mieux possible.
La sociologue Karine Espinera, invitée du journal de 22h hier, interview à réécouter en intégralité sur franceculture.fr. 4 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'attentat perpétré devant les anciens locaux de Charlie Hebdo ont été mises en examen et placées en détention provisoire. Fin septembre, un homme avait grièvement blessé au hachoir 2 personnes devant les ex-bureaux du journal satirique, déjà visé par un attentat en janvier 2015. Emmanuel Macron affirme qu'il va bien, malgré une activité un peu ralentie. Le président de la République, positif au Covid-19, a donné de ses nouvelles hier. Il s'est isolé à la Lanterne, résidence officielle située à Versailles. Au moins 60 000 personnes sont mortes en France du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, d'après Santé publique France. Le Haut Conseil pour le climat publie aujourd'hui un rapport dans lequel on apprend que la 5G peut induire des émissions de gaz à effet de serre qui doivent être anticipées et maîtrisées. Mais l'impact environnemental est encore très flou, difficile de le mesurer, Laura Dulieu.
Le Haut Conseil pour le climat le rappelle, il n'y a pas eu d'évaluation environnementale préalable de la 5G. C'est d'ailleurs le principal reproche des opposants à son déploiement. Le Haut Conseil précise donc que même si son rapport contribue à estimer l'impact carbone de cette nouvelle technologie, il ne saurait se substituer à une étude complète des impacts environnementaux, mais aussi sanitaires, économiques, financiers et sociaux. Alors pourquoi ce bilan carbone est-il si difficile à évaluer ? Eh bien parce qu'on ignore encore beaucoup des usages finaux qui seront faits de la 5G. On pense par exemple aux objets connectés, aux voitures autonomes, au télétravail qui serait favorisé et donc qui réduirait la pollution due au transport. Mais là aussi, ce ne sont que des suppositions, aucune évaluation n'existe. En revanche, selon ce rapport, le déploiement en tant que tel de la 5G pourrait générer entre 3 et 7 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030 selon son ampleur, à cause par exemple des importations de matériel électronique ou encore des nouvelles infrastructures nécessaires, avec notamment les centres de données à l'étranger. Le Haut Conseil appelle donc à la responsabilisation des industriels et des particuliers aux impacts de leurs usages. Le défi étant que la 5G soit compatible avec une politique vers la neutralité carbone. Et pour le moment, ce n'est pas garanti.
Laura Dulieu, ont mentionné les objets connectés, les assistants vocaux en font partie. Ils représentent l'avenir du numérique pour certains, d'autres s'inquiètent du respect de la vie privée. Article à lire en une de notre site franceculture.fr. Un ciel gris et de la pluie sont attendus presque partout en France. Aujourd'hui, on devrait y échapper quand même sur la pointe bretonne et dans l'est du pays. Météo France prévoit 7 degrés maximum à Strasbourg, 9 à Calais, 11 à Paris, 13 à Bayonne et Toulon. Thank you.